And for the recording record, the next meeting is the board with NCSG starting at 15:30 on Tuesday.
Are you ready to go? Okay, could we get started, please?
Pourrait-on commencer, s'il vous plaît? Robin Gross, au micro. Encore une fois, Robin Gross, je suis la tête du groupe partie prenante non commerciale. Et donc la rencontre avec le board. Merci de nous rejoindre. Nous avons nos sujets que nous avons rassemblés. Nous avons aussi rajouté quelque chose à notre ordre du jour. Les quatre sujets que nous avons sélectionnés, c'est protéger donc le système ascendant, aussi les droits des registrants et les nouveaux GTLD, les droits le développement de politique de ICANN et les droits de l'homme. Donc, si nous pouvions commencer avec notre premier sujet, je voudrais demander à Avery de commencer. Ray, oh, excusez-moi, Ray, pardon. Ray, une clarification. Vous avez le mot WHOIS. Est-ce que vous parlez du système actuel ou est-ce que vous pourriez changer cela en tant que la nouvelle génération de services directs? Ivory, vous pouvez commencer la discussion sur le premier sujet. Ivory, je suis presque sans voix quand il s'agit du problème de WHOIS. Donc, lorsqu'on parle du système multipartite ascendant et le personnel ICAV, nous ne voulons pas faire offense au bureau et au board et au personnel. Ils m'ont demandé de présenter ce sujet. Pourquoi pas? Ce qui semble être un problème, ou une progression les années passées, en commençant il y a quelque temps avec une décision préemptoire entre le board et le staff. On ne voit pas vraiment toujours la séparation entre le board et le staff, d'ailleurs, sur ces problèmes-là. Donc, le premier problème, la version les versions des applications, du guide des applications montrant des whois épais qui étaient requis pour tous les nouveaux GTLD. Il n'y avait jamais un processus de politique sur ça. Il semble qu'il y ait une progression de changements qui ont été faits par le board et le personnel. On assume que ce sont ces deux parties qui prennent les décisions ensemble, qui ne semblent pas impliquer le reste d'entre nous dans les décisions des politiques. Nous faisons des commentaires à la fin de la journée, mais même, encore une fois, on n'est pas vraiment sûr si ces commentaires sont pris en compte. Des fois, la décision est endurée avant la fin de la période de commentaires. Donc, le rapport est fait avant que tous les commentaires et les réponses soient obtenus. En fait, quelquefois, on n'est même pas sûr si on a la réponse détaillée à ces commentaires. Je sais qu'il y a des problèmes de où on parle des politiques de façon primordiale ou de politique. S'il s'agit de politique ou de politique ou de mise en place de politique. Ces problèmes sont traités comme des problèmes de mise en place et on dirait que cela affaiblit la nature multipartite de notre entreprise. C'est un vrai problème pour nous et pour d'autres, donc au Geneso. Mais en ce qui concerne de nos inquiétudes, c'est difficile d'avoir nos différentes libertés. En ce qui s'agit de nos différentes libertés, si les décisions sont déjà faites et qu'il n'y a pas de temps pour nous d'en parler. Ceci est donc mon introduction sur ce premier problème. Robin Gross, y a-t-il des réponses ou des réactions du board ou de n'importe qui d'ailleurs, puisque c'est ouvert à la discussion? Oui. Tout premier, Ray Slack au micro. Avery, je suis d'accord avec vous sur certains de ces sujets pour les choses qui se sont passées. Il a été le cas. Souvent, on devrait faire référence au processus de politique et non aux mises en place. À la mise en place. J'étais d'accord avec vous à l'époque, je l'ai déjà dit. C'est ce qui s'est passé ce qui a eu lieu dans le passé. Lorsqu'il s'agit de mise en place des politiques, juste parce que la politique est faite, la mise en place ne peut pas être faite dans un vacuum, il doit y avoir une responsabilité qui doit avoir lieu lorsque les faiseurs de politique, par exemple la communauté, parce qu'il y a exercent une responsabilité en respect de la mise en place. Dans d'autres mots, la mise en place généralement prend la forme de différents processus et de procédures. Si vous ne satisfaisez pas les processus et les procédures qui sont développés, il y a un dialogue qui doit commencer sur cela. Il doit y avoir plus de transparence qui vient des politiques, des procédures et des processus. Il y a donc aussi la responsabilité de faire des commentaires et pour nous assurer que les processus sont suivis ou ne sont pas suivis. Vous avez donc raison en disant que ce que vous dites, nous sommes d'accord avec vous. Je l'ai déjà dit, la communauté entière doit être prête à accepter le fait que si quelque chose doit être fait pour qu'une politique soit mise en place, on doit être capable d'accepter de stopper les choses ou d'attendre ou d'attendre et ainsi de suite. Donc, bien sûr, c'est une opportunité pour qu'il y ait, pour quelqu'un puisse arrêter un programme. Mais les gens qui font les politiques feront cela. On ne doit pas avoir à compromettre ses principes, mais souvent, il y a un compromis à faire pour que les gens arrêtent de se protéger eux-mêmes. Il faudrait qu'il y ait un dialogue plus ouvert dans ce processus. Donc, au final, je suis d'accord sur beaucoup des choses que vous dites. En principe, je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails parce que, à mon avis, ce qui est fait est fait. Allons de l'avant et faisons les choses de la bonne manière. Je voulais juste faire un commentaire. Avery a donné une bonne, les grandes lignes de ce processus. Je voulais mentionner qu'il y a, ce sont des problèmes avec le modèle multipartite et avec des choses en principe et en, les choses qui sont filtrées à travers le personnel, trouver. Je voudrais mettre le point sur quelque chose de spécifique pour vous illustrer un peu la chose. Quand on s'agit du clearinghouse de Marc, vous allez entendre beaucoup plus parler de ce que l'on appelait le trademark, les marques déposées plus 50, la recommandation pour le Je regarde donc le mémo qui a été fait le 3 décembre 2012 et cela note que il s'agit d'un mémo qui s'appelle Strawman Solution. Cela dit directement, non, finalement je regarde le mauvais mémo. Mais le problème est que le GNSO a clairement identifié certaines de ces propositions comme quelque chose qui doit être discuté par le GNSO en tant que politique. Et le HALAC est aussi d'accord en disant que ces problèmes devraient être discutés par le GNSO en tant que politique. Et à la fin, nous avons une analyse de ICANN, un mémo qui dit, c'est le mémo du 20 mars 2013 qui réfère au GNSO. Le GNSO conseille qu'il y aurait une discussion de politique et ensuite on a revu ceci, on a reçu des informations, ça a l'air d'être correct, nous allons mettre ça en place. Et ICANN avait mis un jour un mémo qui dit cela devrait être une discussion du GNSO. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans les discussions sur les politiques du GNSO? Nous sommes d'accord que le problème ne semble pas être suffisant. Nous devons avoir besoin de quelque chose qui soit plus d'un accord ou qu'une affirmation qu'il y a un problème, qu'on prenne connaissance du problème. Ce problème est très réel et très... Je pense que Fadi n'est pas forcément dans la salle, mais je pense qu'il a déjà... Bruce Tonkin, oui. Je pense que Fadi a déjà posé la question ce week-end. A déjà répondu à cette question. Oui. Ce n'est pas seulement quelque chose le NCSG veut parler. Si le problème est vraiment que vous avez peur que que ce qu'il y ait un PDP qui dure des années, on pourrait peut-être en arriver à avoir une discussion qui soit plus rapide avec le GNSO. J'ai Thomas, et Robin Grossi, j'ai Thomas, et aussi ensuite Avery. Thomas Norton, merci. Je voulais dire que Eichland a publié un papier là-dessus. Personne n'en a pas parlé aujourd'hui. Je suis curieux de voir si les gens l'ont regardé, l'ont vu, l'ont lu. C'était sur le sujet des politiques par rapport aux mises en place de politiques. Et ça explore cet espace en plus de détails. Avery, au micro. Je vais commenter là-dessus parce que j'ai lu ce papier. J'ai vu que c'était une bonne contribution. J'ai fait un commentaire là-dessus. Je ne pense pas que ce soit prêt pour être vu pour tout le monde, mais c'est un bon endroit pour commencer la discussion. Cela rentre dans beaucoup des... ça explique beaucoup des problèmes. Je pense qu'un des problèmes, d'ailleurs, et vous savez, quand je l'ai dit, quand j'en ai parlé, on va d'un endroit, de début où la plupart du temps, ça commence par des politiques, mais on parle déjà de la mise en place dès le début. Et à la fin, donc, on parle de la mise en place. Mais il y a des politiques dont on parle à la fin, encore une fois. Et je ne vais pas en parler encore, comme Ulvan l'a dit, je ne vais pas passer à une autre conversation. On va dire qu'il n'y a pas de vers entre les deux, de chapitres entre les deux, de paragraphes. Et il arrive des fois qu'il y ait des choses qui soient en contradiction entre les deux. Ils doivent arranger quelque chose pour qu'il y ait deux processus qui devraient fonctionner l'un avec l'autre. Et je pense que ce papier en question apporte des détails bien importants. Une chose, ce serait une bonne manière de commencer. C'est bon que Fadi a fait un commentaire là-dessus, que Fadi a pris quelques responsabilités sur certains sujets. Le processus était là avant Fadi. Fadi est arrivé dans un environnement où nous avions déjà l'habitude de mettre en place les choses trop rapidement parce qu'on ne voulait pas passer du temps sur le processus. Donc, il est arrivé, il a rendu le processus plus efficace. Mais il n'était pas le premier à le faire. Et aussi, en lisant ce papier, ça commence une bonne discussion, mais je ne sais pas si cela résout le problème à ce jour. Je ne vois rien qui dit... Et je ne vais pas pouvoir ajouter un autre chapitre à la fin de la liste, mais un dernier commentaire de ma part, c'est... Ces choses sont passées dans le passé, mais elles n'ont pas été, ce ne sont pas des choses, des sujets clos, je suis d'accord. Avery au micro, je ne suis pas vraiment prête à dire, well, enfin bon, tous ces problèmes. Voilà, donc dit Avery, merci Ray, c'est mon commentaire là-dessus. Robin Gross, oui, je vois Mike et ensuite Bruce et ensuite nous passons au prochain sujet. Mike, je reconnais que... Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Mike Sober, je reconnais que des erreurs ont été faites. Je n'ai pas l'habitude, dit Mike, d'avaler le micro. Des erreurs ont été faites. Il faut aussi prendre compte... accepter que nous n'avons pas de gens stupides au monde dans notre sein. J'ai vu d'autres processus aller et venir. Cela ne veut pas dire que on doit commencer un processus par le début parce que les problèmes sont un petit peu différents. On peut prendre des données qui sont des informations sur un sujet qui a déjà été donné auparavant ou sur un autre sujet et consolider tout cela au départ donc de ce processus en allant de l'avant. Je suggère qu'il faudrait la suggestion que le personnel usurpe le processus est actuel. Il faudrait donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent le processus de beaucoup de travail. Ça prend des décisions ascendantes de processus différents. Je ne pense pas que Scott se lève le matin et dit comment est-ce qu'on peut rendre les gens, mettre les gens en colère aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il se lève en pensant ça le matin. Merci, Robin. Bruce Tompkins. Le thème général est consistant. Et c'est ce qu'on a entendu de tous les parties prenantes, les groupes parties prenantes GNSO aujourd'hui. Je pense que le board reconnaît que c'est un problème. C'est pour ça que nous aurons une session sur ce sujet demain, sur la mise en place des politiques. Le message clé, j'ai entendu jusqu'où, qui revient à toutes les réunions du GNSO et des parties prenantes, c'est que le GNSO regarde justement dans parle de deux sujets. À différents points, quand beaucoup de changements, des grands changements sont effectués, il est important de revenir vers le GNSO pour recevoir des conseils et du suivi. Ce qu'il faut qu'on regarde à l'avenir, c'est que nous ayons un bon temps de délai avec lequel nous travaillons. Le bureau a demandé au personnel de mettre le programme en place, par exemple pour le nouveau GTLD, mais le personnel a certainement eu peur à certains moments des délais qu'il pourrait y avoir. Toutes ces choses sont interdépendantes. Donc, si on pourrait mettre en place un processus qui dirait on est tous d'accord que le groupe du GNSO doit être consulté dans le processus, et en même temps, il faudrait qu'il y ait un engagement des groupes constitutifs pour qu'ils puissent répondre dans un bon délai. Et tout cela doit être mis en place. Et nous parlerons de cela demain. Et pour être clair, nous vous écoutons. Si vous pensez que le bureau est passif, c'est parce que le bureau a entendu ces choses toute la journée. Nous avons compris le message. Nous reconnaissons le problème. Merci, Bruce. Je voudrais passer le micro à Wendy pour amener le deuxième sujet sur la table. Nous passons à accepter la révision du sujet des nouveaux de l'annuaire du nouveau GTLD, des services des annuaires du nouveau GTLD et de la vie privée parce que nous devons repenser les provisions, la collection et les provisions des données du DNS à partir de la base. Et inclure les sujets de vie privée dans cette révision, parce que notre inquiétude, c'est que le groupe semble n'avoir que seulement une personne, un expert sur la vie privée. Et je pense que après ce que l'on a vu, c'est que cela pourrait être problématique. Nous voulons encourager ce groupe et le bureau, le board, si nécessaire, de fournir des avenues pour d'autres informations sur la vie privée. Merci, Wendy. Robin Gross au micro, Ray? Ray Platz. Oui, pour votre inquiétude, l'information qui sortira de ce groupe ne sera pas rendu politique, ce ne sera pas un processus, ce ne sera pas un guide, ce sera une chose et une seule chose qui sera bien faite. Ce sera de l'information qui sera rentrée dans le GNSO pour qu'il y ait une discussion sur des politiques. Ce groupe a été formé par le PDG pour rassembler des données, des faits, afin de pouvoir encadrer les problèmes. La session a été conduite hier et ainsi d'autres experts sur la vie privée, entre autres, puissent faire des commentaires et donner des informations sur le processus. Il y a aussi une invitation hier du groupe et des URL ont été représentées pour que plus de données puissent être entrées. Ils peuvent obtenir autant d'informations que possible. Comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un groupe de représentants. Tout le monde, ce n'est pas un modèle représentatif. Tout le monde ne peut pas être représentant. J'aurais voulu être une liaison vis-à-vis de ce groupe et du board, mais je n'ai pas été choisie. Mais j'ai passé beaucoup de temps hier à parler de cela. Je voudrais que d'autres fassent la même chose. Il n'y a pas de tentatives qui ont été faites ici pour changer le nombre de gens qu'il y a dans le groupe. Prenez donc vous avez la possibilité de faire des... vous aurez donc la possibilité de faire des contributions. Robin Gross, merci Ray. Quelqu'un d'autre veut parler sur ce sujet? Steve Crocker, oui, je pourrais rajouter quelques points. La composition du groupe des experts, du groupe de travail des experts, nous essayons d'avoir le plus de sources possibles d'expertise. Ce n'est pas une représentation de groupes constitutifs seulement. Ce n'est pas une opération menée par les groupes constitutifs. Ce n'est pas pour faire des décisions, pour établir des politiques. C'est juste, comme on l'a dit, pour encadrer ces processus pour qu'ils démarrent d'une bonne manière. Les problèmes de vie privée et les problèmes de force de l'ordre, les problèmes d'abus, d'efficacité, de coûts d'opération et d'autres problèmes ainsi pragmatiques, pour comprendre comment les registraires opèrent, comment comprendre toutes les technologies incluses. Toutes ces choses sont bien représentées de manière bien variée par les gens qui sont représentés. Nous voulons voir une bonne correspondance avec les groupes constitutifs que nous avons dans la structure ACAM.
Merci beaucoup, Steve. Eh bien, je ne vois personne d'autre qui veuille prendre la parole, donc nous pouvons passer au prochain thème, à traiter les droits des registrants. Et nous allons maintenant donner la parole à Wendy pour... On a beaucoup entendu parler durant cette réunion de négociation de contrat, on en a parlé. On a parlé de l'accréditation des bureaux d'enregistrement et j'ai cru comprendre de la part de ces bureaux d'enregistrement que les négociations, eh bien, sont pratiquement conclues. Et pourtant, ces accords représentent la base de tous les droits que ces bureaux d'enregistrement ont. Et nous avons eu des déclarations par rapport aux droits et responsabilités des registrants. Nous avons eu la dernière ébauche de ce document. Et il semble que cela soit une déclaration faible de leurs droits. Le droit de savoir qui est votre registrant, donc quelques termes de service. Donc il me semble que cela doit être renforcé. C'est trop faible pour le moment. C'est une déclaration par rapport au nom de domaine. Il me semble qu'on a droit à avoir des traitements non discriminatoires et on retrouve cela dans d'autres politiques. Il y a les questions de radiation, les questions de process, de droit qui se posent. Le transfert en temps et en heure, renouvellement, droit à la vie privée, affichage des données aussi, problème de censure par rapport à l'utilisation du domaine, communication des parties contractantes. Et donc, il semble qu'une déclaration beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide, qui garantit donc, dans les lois en vigueur, dans le cadre des lois en vigueur, les droits de l'homme, en quelque sorte, ça doit faire partie du processus ICANN qui représente tous ceux qui ont un intérêt dans le système des noms de domaine en tant que plateforme de communication. Et parmi ses responsabilités pour les registrants, ils doivent limiter les abus éventuels et ils doivent communiquer lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent au niveau des noms de domaine. Je crois qu'il sera important à l'avenir pour le Conseil GNSO de prendre en compte ces accords signés en raison du rôle politique d'établissement des politiques qu'ils jouent avant de finaliser ces documents pour que ce soit des contrats qui soient en vigueur. Donc, est-ce que nous avons des réactions et ou commentaires par rapport à ce point? Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce qui a été dit? Oui, Cathy, allez-y. Cathy Climon. Je crois que Wendy reprendra la parole au sujet des droits, parce que c'est une question très importante pour les groupes non commerciaux. Nous avons beaucoup de noms de domaines, de bureaux d'enregistrement, et ce sont des idées qui sont tout à fait intéressantes. Moi, j'ai appris quelque chose de nouveau hier, c'est qu'il y a un groupe de registres qui négocie. Vous avez du mal à m'entendre ? Ah oui, pardon. Oui, je vais me rapprocher du micro. J'ai peur de l'écho. Oui, il y a les registres de base qui négocient autre chose que le RA. Je crois que c'est un petit peu différent. Il n'y a pas des parties de côté, c'est un petit peu comme le manuel qui a été négocié par la communauté. Il y a eu des changements de négociés. Et je crois que nous aurons une équipe beaucoup plus diverse. Et je recommanderais fortement d'encourager la diversité, ce qui serait très utile, puisque cela a trait à de nombreux droits, ce doit aller vite, cela doit être rapide, il doit y avoir une bonne représentation. Merci, Cathy. Wolfgang. Oui, Wolfgang Klamichter. Oui, merci beaucoup. Je voudrais rajouter une dimension à cela. En ce qui concerne le GAC, Jonathan, président du GNSO, nous a dit que le GAC, les gouvernements ont certaines responsabilités par rapport à leurs citoyens. Et le GNSO a des responsabilités par rapport aux registrants et aux bureaux d'enregistrement, parce que ce sont des citoyens également. Et nous devons travailler main dans la main entre gouvernement et parties constituantes, GNSO. Et donc, je crois que le rôle principal des gouvernements, en ce qui concerne leurs citoyens, eh bien, par rapport à leurs citoyens, ils protègent les droits des citoyens. Ils ne donnent pas des droits aux citoyens, ils protègent les droits des citoyens. C'est ce que fait un État. Et si vous prenez ce modèle en compte entre les bureaux d'enregistrement et les registres et les registraires, eh bien, c'est le même type de rapport qui doit s'instaurer. Il y a des droits, il y a des droits au niveau des bureaux d'enregistrement, il y a des droits au niveau des personnes qui enregistrent leur nom de domaine, et ça me paraît une bonne opportunité pour avancer et merci beaucoup, Wolfgang. Milton veut prendre la parole. Oui, Milton Mueller, j'aimerais mettre cela en lien avec l'unitéralisme, latéralisme, et je crois qu'on était un peu surpris lorsqu'on a vu ce document. D'où vient-il? D'où provient-il? Les droits et responsabilités des registrants, 7 mars, c'est un document qui date du 7 mars 2013. Et le concept des droits, ici, vraiment clairement, n'a pas été inscrit sans consultation et ne reflète absolument pas ce qui nous intéresse. On parle là de personnes qui veulent réguler, avoir des outils de régulation et gérer les conflits et les litiges. Alors j'aimerais savoir comment ça s'est produit, comment c'est survenu. On a parlé d'unilatéralisme, on a parlé de process, mais le processus en vient toujours à être rompu. C'est dans l'intérêt de qui? Je me pose la question. Et d'où provient ce document? Les personnes qui ont préparé ce document, que pensaient-ils véritablement? On parle de droits individuels, des bureaux d'enregistrement et de leur formation. Est-ce que nous avons des réponses de membres du conseil d'administration ou de membres du personnel de l'ICANN? Donc, est-ce que quelqu'un sait d'où provient ce document? Oui, Samantha Eisner, je suis membre du personnel de l'ICANN, et ce document provient des registraires dans le cadre de la négociation. Ça a été créé par ces registraires, et ce qui est important de savoir, c'est que ce document indique différentes obligations dans le cadre de l'accord. Et je sais qu'on ne peut pas faire référence à toutes les politiques et lignes de conduite et les standards juridiques et déclarations des droits de l'homme, mais c'est lié à des obligations spécifiques du contrat. Merci beaucoup. Si je pouvais rebondir là-dessus, dit Robin Gross, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit plus clair, parce que ça ne me paraît pas, ça semble vraiment être une liste de tous les droits d'un bureau d'enregistrement, mais comme vous l'avez dit, c'est en rapport avec ce contrat, c'est important de le rappeler. Ça fait vraiment une différence forte. Oui, pour rebondir sur ceci, lorsque Fadi en a parlé, lors de la cérémonie d'ouverture, eh bien, j'étais le chercher. Qu'est-ce que c'est que ce document si fantastique? Ses droits et responsabilités. Et c'était très anodin, en fait, comme déclaration. C'est des termes et conditions. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une déclaration des droits des bureaux d'enregistrement, mais que nous ne l'avons pas vu avec ce document. Ça n'était pas la teneur, en tout cas. Donc, oui, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur l'historique de ce document, dit Bruce Tonkin. C'est une description très légale en rapport pour les rapports entre les bureaux d'enregistrement et les registraires. C'était une ébauche de documents. On essayait de simplifier un petit peu cela dans le cadre de l'accord ERA et on voulait que ça soit disponible pour les bureaux d'enregistrement, mais vous avez bien dit cela, c'est en rapport avec ce contrat. Ce n'est pas un document d'ordre général. Alors, une suggestion. Le GAC, au début, a lancé beaucoup de principes, un ensemble de principes, et il me semble que pour les droits de l'homme, les droits des bureaux d'enregistrement, les parties non commerciales également, je crois qu'il faudrait créer des principes sur les droits des registrants. Et ces principes pourraient être utilisés pour le développement de politiques. Oui, merci beaucoup. Bruce Tonkin, je ne vois pas d'autres mains se lever pour parler de ce sujet. Donc, nous allons passer au suivant, dit Robin Gross. Et j'aimerais demander à Joy Nikinashi de lancer le débat. Oui, Joy Lidicott. Oui, merci Robin. J'aimerais donc maintenant prendre un point de vue plus stratégique, une perspective plus stratégique sur la question des droits de l'homme qui se pose parfois. Il y a eu quelques développements récents et en particulier l'objecteur indépendant a publié un nombre de commentaires publics en réponse aux soumissions reçues par les dépositaires de dossiers GTLD. Et vraiment, nous voulions réfléchir à quelque chose d'assez encourageant. Certains de ces commentaires de l'objecteur indépendant étaient intéressants. C'est un mécanisme intéressant pour les objections par rapport au nouveau nom de domaine. Et nous pensons que cela est assez clair. Les commentaires de l'objecteur indépendant prennent cela très au sérieux. Il y a des objections qui ont été soulevées. Et nous avons un intérêt très large provenant du public, une approche juridique qui a été utilisée, et des objections prises en compte. Et je crois que c'est une contribution tout à fait utile au débat sur les droits de l'homme à l'ICANN. Et parfois, ça nous inquiète un petit peu d'entendre parler de droits de l'homme. On se pose la question, mais nous sommes tous encouragés par ces nouveaux développements. Et nous pensons qu'il y a une période de commentaires publics qui est ouverte. Et tandis que notre communauté a différents points de vue sur le sujet, nous trouvons cela très encourageant que l'objecteur indépendant ait donné son opinion et ait participé au débat. Donc, nous voulions simplement donner la possibilité à tout le monde de réfléchir à cela, à ces commentaires publics par rapport au conseil d'administration. Et nous sommes donc maintenant prêts à ouvrir le débat. Donc, quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet ? Donc, nous sommes dans une phase tout à fait nouvelle qui ne vient que de commencer. Et nous avons parlé de l'intérêt du public, nous avons parlé de droits de l'homme, nous avons parlé de plusieurs thèmes sur la vie privée des données. Et vraiment, c'est la première phase du débat. Le développement technologique va peut-être modifier beaucoup de choses. Et ce sera très intéressant de voir comment les cas individuels seront gérés. Et nous avons plusieurs commentaires publics que nous avons déjà reçus. Il y a une évaluation, en effet, indépendante qui a été effectuée. Ce sera très intéressant de suivre ce sujet. Et il y a beaucoup de manières de modeler ce débat, mais personnellement, je m'intéresse beaucoup à la question de l'intérêt public. Et comment définit-on l'intérêt public? C'est très difficile de trouver une bonne définition de l'intérêt public, une définition claire pour les droits de l'homme, pour... Nous avons des lois internationales qui existent à ce niveau. Il y a des définitions sur les droits à la vie privée et à la protection de la vie privée et des données privées. Mais il y a des domaines où c'est beaucoup plus difficile. Donc, Bruce nous a dit au point 3 que nous devons définir le processus d'une manière très précise. Et je crois que tous ensemble, nous devons le définir, nous le ferons. Ce sera très important. Et être le plus concret possible avec des termes également juridiques utilisés, puisque je suis désolé d'être si vague dans mes propos, mais nous définissons un thème complexe. Walid Asakaf, je suis un boursier de l'ICANN, un fellow, et je crois que les droits de l'homme, lorsque l'on parle des propriétaires des domaines, comme moi, je suis propriétaire de certains domaines, je crois que l'ICANN s'occupe des protocole Internet, des noms de domaines, c'est très technique souvent. Moi, je crois que l'ICANN doit réfléchir au filtrage, par exemple, pour les propriétaires de noms de domaines, lorsqu'il y a un manque de transparence. Lorsque l'on parle d'approche multipartite, eh bien, c'est les utilisateurs qui sont si nombreux. Ils doivent être informés. Lorsque l'accès à un site web n'est pas possible lorsqu'il y a un filtrage pour une raison ou pour une autre. Et donc, l'ICANN doit vraiment être encore plus transparent et permettre aux utilisateurs ainsi qu'aux propriétaires de noms de domaine faire savoir quand il y a du filtrage, pourquoi, s'il y a des raisons légales pour ce filtrage, pour ce manque d'accès à certains noms de domaine ou sites. Donc, Steve, Steve Crocker au micro. C'est vraiment très ardu comme question parce que vous vous concentrez sur les sites web. Et c'est une chose, mais les noms de domaine sont utilisés en effet pour ces sites web. Mais il y a une distinction entre un nom de domaine d'un côté et l'utilisation de l'autre. D'un nom de domaine pour un soutien Internet, un nom de domaine utilisé pour des adresses e-mail aussi, hein, pour des adresses de courriel, pour des centres de services, pour différents sites. C'est beaucoup plus large. Donc vraiment, il y a plusieurs couches au protocole et c'est de cela dont vous parlez, je pense. Et ce n'est pas la première fois que le filtrage par rapport aux noms principaux de domaines, le filtrage ne permet pas d'accéder à certains sites web. Mais par exemple, aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a des efforts législatifs de fait. C'est très inquiétant, me semble-t-il, parfois, parce que on s'attaque un petit peu au mauvais niveau, à la mauvaise couche. Oui, merci Steve Crocker. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, dit Robin Gross, qui veulent intervenir, d'autres commentaires dans la salle? Oui. Je voudrais rebondir, dit Joy Lidocat. Il me semble, j'aimerais vous remercier, Erika, pour vos commentaires. Vraiment, j'aimerais encourager le board à il me semble véritablement que nous renforçons l'intérêt du public en mettant cela dans nos textes et dans nos manuels. Il y a des processus de développement communautaire et je crois qu'en fin de compte, nous sommes là pour prendre des décisions, notamment sur la base de ce que nous a dit notre objecteur indépendant. Vous savez, ce sont des décisions préliminaires. Et il me semble que nous avons débattu de l'effectif de la CAN. Qui doit être membre de la CAN? Je ne sais pas s'il y a une mise à jour à ce sujet, s'il y a des commentaires qui pourraient être faits sur cela. Oui, quelqu'un voudrait répondre à Joy? Oui, Steve Crocker. Je crois que c'est une question difficile. Nous avons une initiative qui a été lancée pour un réseau mondial. Eh bien, c'est un consortium de grandes entreprises internationales, multinationales, qui s'engagent envers les droits de l'homme, une initiative qui provient du travail de John Ruggie, le rapporteur concernant les droits de l'homme et les entreprises. Il s'agit d'initiatives du secteur privé, tout particulièrement pour des organisations qui ont un point de vue public. Et nous encourageons le board à considérer un effort en ce domaine, dans ce domaine, participation à l'initiative du réseau mondial, dont je n'étais pas à la dernière réunion à Toronto, donc peut-être que quelqu'un peut me dire ce qu'il en est et s'il y a des nouvelles avancées à ce niveau. Donc, Thomas, est-ce que vous avez quelque chose par écrit pour faire cela? Parce que je me pose la question, qui va assurer le suivi? Donc, Rafik, vous voulez intervenir? Donc, Fadi suggérait qu'il va travailler là-dessus, donc je ne sais pas où nous en sommes actuellement. Donc, je ne sais pas si c'est une proposition par écrit, mais c'est un échange de points de vue, tout simplement. Donc, c'est vraiment une mise à jour que je fais, là. Un de plus. Donc, nous avons, dit Mike Silber, à peu près 700 items qui ont trait à cela. Donc d'autres commentaires. Donc, d'autres points que vous voudriez soulever, Cathy? Oui, moi je crois que je me suis déjà exprimé en ce qui concerne ces registres. Mais voilà, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. D'autres commentaires? Très bien, parfait. Eh bien, excellent, merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup votre temps et votre participation. Nous vous remercions tous d'être venus aujourd'hui pour votre attention.
Wendy Seltzer here and Kathy Kleiman here, because these guys are the ones who really know this who is privacy issue. And so I think that talking to them would probably be more Wendy first. Thank you, I appreciate that.
Thank you for your comment yesterday anyway.
Thank you.
The things were not perfect, we are just going to do our best. Regarding your comment on the reputation of privacy, I think it's a little bit unfair against Stephanie.
Yeah.
I think she's very well respected.
Oh,
and the thing is not to say privacy is 30% important, so we get three people and then have 15 people, including three and Chris, so basically 13, and me, that's 12. So I mean, and this is not viewed as a representative way of doing things.
I think
we often try to do our best to help the issues, work on this one, and in the view of the general interest of everything, to find a solution. Because up to now, what has happened is people came with definition, they just
don't right. I appreciate that it's not a representative body, and I was, you know, merely suggesting that in the cases where Stephanie doesn't know everything there is to say about privacy, we might explore other avenues to get privacy input.
I invite everyone to comment. So we have an open event. This will be examined for sure. Have no other agenda to be used. Okay?
Yes.
That's all what I'm trying to do.
Wonderful. And so I look forward to sending...
And Stephanie, I give her probably 50% of the effort. So she gets much, much more than if there were already six people into the group.
Yes. I appreciate that because...
So you can blame me on many things, but not on this one.
Good.
And I would like to seek your insight on... How do you think you should end up with? Because, you know, we have this EWG, which is just to pre-digest, pre-choose the issues, format that in a way it can be transferred in a useful manner to GMSO. The last thing we want to do is we work very hard and we take it here and then people say, that's it, finish, don't do it. So how can we be useful? Are more useful in the formatting, the approach, whatever.
Well, I think that we